Bonjour à toutes et à tous, Mémoire avec Rodez, c'est sur CFM Rodez tous les 15 jours, une émission proposée par Vincent Beson. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Toujours.
Et 35e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur notre radio. Ben oui, le temps passe vite, mais le temps passe très bien. Avec toi, et je crois qu'il y a 15 jours, tu nous avais annoncé qu'on allait parler peut-être de l'enfant le plus célèbre du département de l'Aveyron.
C'est ça, tout à fait.
Et
le plus sauvage.
Et surtout le plus sauvage. Donc, c'est l'histoire de l'enfant sauvage que je savais, moi, perso, je t'avoue, je savais même pas qu'il était Aveyronnais, cet enfant-là.
Victor, alors, on ne sait pas s'il était Aveyronnais.
Ah.
D'ailleurs, tu verras que l'histoire commence pas en Aveyron.
D'accord.
Mais c'est chez nous qu'il a été trouvé. Donc, on se l'approprie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de s'approprier un enfant sauvage, mais il est resté dans l'histoire sous le nom de l'enfant sauvage de l'Aveyron.
Moi, je connaissais l'enfant sauvage, le film de François Truffaut, peut-être.
C'est ça. Bah, on va en parler.
Ah, bon,
d'accord. C'est lui.
Ah ouais. Bah, tu vois, je me souvenais pas que c'était un Aveyronnais, le petit garçon. Donc. Bon, alors, on commence quand? Ça a débuté quand, cette histoire?
À la Révolution française.
Ouais.
Alors, nous partons aujourd'hui dans l'extrême sud-ouest du département de l'Aveyron, vraiment à la limite avec le Tarn, dans le très joli village de Saint-Cernin-sur-Rance.
Oui.
C'est un village magnifique qui est accroché sur un éperon rocheux, ce qui lui donne vraiment une très très belle allure. Alors, le nom de Saint-Cernin, ça te dit quelque chose?
Bah, les statues menhirs.
Oh, t'es trop fort.
Non, mais bon.
T'es trop fort.
Ouais.
Non, si, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est un nom qui est très connu en Aveyron, puisqu'en 1888, c'est après de ce village qu'a été découvert la fameuse dame de Saint-Cernin, qui est vraiment la plus belle et aussi la plus connue des statues menhirs de l'Aveyron. Mm-hmm. Elle est conservée actuellement, on peut la voir quand elle ne part pas pour des expos, mais je crois que c'est quand même assez rare.
Ouais, on
la garde au musée Fenaille. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le propos du jour.
Non.
Bien que ça fait le petit rappel historique, ça fait jamais de mal. Alors avant de parler de l'Aveyron, je l'ai dit, nous allons faire un petit passage, vraiment on est limitrophe là, avec le Tarn voisin.
Ouais.
Encore les Tarnais, tu vois, je trouve que pour mémoire aveyronnaise, je parle beaucoup trop des Tarnais.
T'en parles beaucoup.
Vous pouvez me corriger, chers auditeurs, si vous trouvez qu'on parle trop des Tarnais. Alors, nous partons donc dans le Tarn voisin, nous sommes à la fin de la Révolution française, en 1797, et nous partons près du village de Lacône.
Ah bah, on connaît bien sûr,
connaît,
CFM,
bien sûr, studio CFM, CFM voilà, Lacône.
Ouais, alors c'est vrai que c'est sauvage par là-bas.
Enfin, oui.
C'est perdu, on va dire. Non, c'est pas perdu.
Alors, est-ce que les enfants sont sauvages, à Lacône?
Aujourd'hui, ça doit aller mieux, mais enfin.
Ou tu sais.
Ouais,
je sais pas trop, mais ceci est un autre débat. Alors, trois chasseurs et leurs chiens viennent de lever un curieux gibier dans les bois de Lacône. Ils viennent de découvrir un enfant sauvage d'environ 8-10 ans. Il est entièrement nu, sale, les cheveux hirsutes et se déplace un peu comme font les singes en position semi-accroupie en s'appuyant sur ses mains.
Mm-hmm.
Donc c'est vrai que ça doit faire une rencontre un peu, un peu bizarre.
Hein. Et ce témoignage des chasseurs, on l'a eu des années plus tard ou tout de suite dans le coin
Non, tout de suite. Hein, tout de suite.
Ils disent, oh, c'est bizarre ça quand même.
Ah bah oui, tu m'étonnes. un petit peu. Il est extrêmement craintif et semble vivre dans un état complètement sauvage depuis de nombreuses années.
Mm-hmm.
Ce garçon réussit cependant à s'échapper et 2 ans plus tard, durant l'été 1799, l'enfant est retrouvé et attrapé. Il est conduit au village de Lacône. Petit rappel historique, tu sais, j'aime bien faire des rappels.
Ouais.
1799, nous sommes...
Sous le consulat.
Non. Bravo, sous le consulat.
Oui.
Et le premier consul n'est autre que le général Bonaparte.
Bah oui.
Les Bonaparte, on va en parler, on va en reparler, tu vas voir, juste après.
Ah bon?
Eh oui, tu vas voir.
D'accord.
Il y a un petit lien, pas avec Napoléon, mais avec un autre Bonaparte, avec l'enfant sauvage.
Ok.
Alors l'enfant sauvage est enfermé dans une grange du village, mais alors, il est nourri, on essaye de s'occuper de lui, on essaye de le vêtir un tout petit peu, même si bon, il ne garde pas forcément ses vêtements, mais il finit par s'échapper.
De nouveau,
et rejoindre les bois.
D'accord.
Encore l'endroit qu'il connaît le mieux.
Mm-hmm.
Quelques mois plus tard, en janvier 1800, le Sauvageon se trouve cette fois, ça y est, on y est, mémoire aveyronnaise, en Aveyron.
Ah.
Il fait quelques incursions dans le village Saint-Cernin-sur-Rance pour venir quémander un peu de nourriture
auprès
des gens.
Le mois de janvier, il ne devait pas faire chaud, il n'y avait pas grand-chose à manger dans la nature.
Et puis, alors, peut-être que... Personne ne l'avait vu, tu sais, il était vraiment caché dans les bois. Mais peut-être que le fait qu'il ait été attrapé qu'il était gardé quelque temps dans une grange, que les gens venaient lui apporter à manger, tu vois, il avait plus du tout besoin de chercher sa nourriture, on lui apportait à manger. Peut-être que ça a participé justement
au fait qu'il se rapproche ensuite,
qu'il se rapproche un peu plus pour venir demander de la nourriture. Mm-hmm. Un matin, il se présente chez un teinturier de Saint-Cernin.
Oui.
Il va directement chez lui pour chercher la nourriture. Là, les autorités sont prévenues. Cette découverte se propage dans toute la France, c'est comme une traînée de poudre. Uh-huh. Ce curieux garçon est surnommé par tous l'enfant sauvage de l'Aveyron.
Dès 1800.
Donc d'accord. Tu vois, tu posais la question, vraiment, ça a été quelque chose de sensationnel au niveau...
Parce qu'on était à l'époque, Révolution française, il y avait eu Jean-Jacques Rousseau, le mythe un peu du retour à la nature, l'être humain, l'état naturel, nanani, nanana.
Tout à fait.
C'était un peu un contexte global.
Tout à fait. Et puis, tu sais, on se souvient encore du Gévaudan. C'était quelques décennies avant. Sous Louis XV. Mmh. Un enfant. Alors, tu sais, il y a toujours des légendes. Mmh. Mi-homme, mi-animal, mi-loup. Tu sais, les loups-garous, etc. Donc, c'est quand même quelque chose d'étrange et de curieux qu'on voit vraiment pas tous les jours.
Je me dis, de notre coin de France, l'Aveyron, les départements limitrophes, on était un peu la zone sauvage du pays à l'époque parce que les trucs pas possibles, c'était pour nous à chaque fois.
J'ai l'impression. Bah, ouais, c'est sûr. Bon. Est-ce que ça fait de la publicité au département?
Peut-être pas de la bonne.
Est-ce qu'elle était bonne ou pas? J'en sais rien. Ouais. Donc l'enfant est conduit dans un orphelinat à Saint-Afrique, puis à Rhodes.
D'accord.
Cette histoire donc s'est propagée dans tout le pays et elle remonte jusqu'à Paris aux oreilles de Lucien Bonaparte.
Lucien, alors
À cette époque, il était ministre de l'Intérieur.
Ah, quand même.
Et surtout, frère du premier consul.
Oui.
Napoléon Bonaparte.
Il s'appelait Lucien, d'accord.
Donc quand même quelqu'un d'important. On va dire d'un tout petit peu important. il décide de le faire venir à Paris pour y être étudié.
Ok.
Parce que vraiment, c'est quelque chose de curieux. Comme tu dis, le siècle des Lumières était pas loin. Ouais. Avec la campagne d'Égypte, tu vois, il y a beaucoup de savants. On fait beaucoup de recherches.
De recherches scientifiques dans tous les domaines.
Cette espèce d'enfant mi-homme, mi-animal, on ne sait pas trop, sauvage.
Mais à l'époque,
on a vraiment envie de l'étudier.
Mais à l'époque, d'emblée, on s'est dit, il a rien à voir avec la civilisation. On n'a pas fait une recherche en se disant, c'est un enfant un peu perdu, abandonné, qui a passé deux ans là. Mais bon, c'est
justement, comme on ne savait pas, lui veut le faire remonter vers la capitale. Qui dit la capitale dit forcément beaucoup de scientifiques, beaucoup de spécialistes. Donc, c'est vraiment pour l'étude qu'on le fait monter à Paris. Mmh. Comme l'enfant ne parle pas et qu'il réagit très peu au son, on pense qu'il est sourd.
Ouais.
Et on décide de le confier à l'Institut des sourds et muets. À ce moment-là.
Oui, pourquoi pas.
Une foule immense vient le voir, sans arrêt. Vraiment, c'est une attraction, une véritable attraction vivante. Je te dis, la presse s'en empare. Mmh. On parle énormément de lui dans tout le pays. Il est d'abord confié au docteur Pinel, qui est un célèbre médecin aliéniste. Tu vois, c'est pas...
Ouais.
Voilà. De l'hôpital Bicêtre. Pinel fait un premier rapport dans lequel il considère, c'est pas très sympathique, que l'enfant est un malade mental et un idiot de naissance.
Ouais, oui.
Voilà, ça c'est fait.
Voilà.
Il pense que ça doit être pour cela qu'il a été abandonné dans les bois par sa famille.
Mm-hmm. Oui, c'est plausible.
C'est plausible, tout à fait. Et on va le voir, c'est la piste, une des pistes, souvent la piste principale qui va être retenue. Mm-hmm. Tu verras que c'est quand même, son histoire est assez dramatique. Mm-hmm. Le garçon passe ensuite entre les mains de l'abbé Bonaterre, éminent naturaliste et professeur d'histoire naturelle. Il fait un examen clinique très poussé de l'enfant. Il confirme qu'il a entre 9 et 10 ans. Il constate qu'il a de nombreuses cicatrices sur le corps. Puis il écrit un long rapport qui laisse un doute considérable sur sa longue existence à l'état sauvage. Mmh. Pour lui, c'est impossible que ça soit un enfant qui ait vécu vraiment pendant des années et des années.
Qu'il soit nourri tout seul pendant des années dans les bois de la Cône.
C'est possible.
Ouais.
C'est possible, mais pas lui.
D'accord.
En fait, il compare son état physique et sa façon d'être et d'agir avec d'autres enfants sauvages qui ont été découverts à travers le monde.
Ah ouais, d'accord.
C'est pas le seul. Il y a eu plein d'enfants sauvages au fur et à mesure des siècles.
Même encore au XXe,
Des rapports ont été faits, très précis, parce qu'on cherche vraiment à comprendre et étudier ces enfants.
Ouais.
Et là, vraiment, ça colle pas. Sous la saleté, l'enfant a une peau très blanche et fine. Tu vois, déjà, c'est un indice. Mmh. Il a peur des hauteurs. Alors que les enfants sauvages, souvent, ça monte aux arbres pour se cacher, pour fuir les prédateurs, sur les rochers, etc. Il a peur de l'eau.
Ouais.
Donc pour, il a peur de beaucoup de choses.
Il a peur de beaucoup de choses, ouais. Il aime s'approcher du feu pour se réchauffer.
Ah.
Le feu pour un enfant sauvage à moitié animal, tu vois.
Normalement, ça fait peur.
Normalement, ça fait peur. Il n'a pas peur du contact humain.
Oui.
Enfin, au début, il en avait peur. Mais si tu veux, plus il est en contact avec l'homme, plus ça devient facile, quoi. En fait, rien ne correspond avec le descriptif donc des autres enfants sauvages. De plus, l'abbé Monataire constate que l'enfant a une cicatrice. Alors, il a des cicatrices un peu sur tout le corps, surtout des cicatrices de brûlure, mais surtout une cicatrice transversale de 41 mm au niveau du larynx.
La gorge.
La gorge, ce qui semble avoir été causé par une lame tranchante.
Ah ouais, d'accord.
Alors, aurait-on voulu l'assassiner ? Serait-il possible que ses parents auraient tenté de le tuer avant de l'abandonner dans les bois ? C'est une piste qui est privilégiée. Le doute plane, et en fait, le doute, jusqu'à sa mort, il ne sera jamais entièrement résolu. En fait, cette cicatrice, il ne parle pas. On pense que, comme si au niveau du larynx, ça a dû endommager des muscles ou quelque chose. Voilà, s'il ne parle pas, on imagine très bien que ça doit être à cause de cette cicatrice. En 1801, le garçon est confié au docteur Jean Itard, qui souhaite l'étudier et surtout l'éduquer, pour essayer vraiment de lui apprendre à marcher, parce qu'il ne marche pas en position debout, il est toujours en position accroupie, un peu comme un singe. On sent que le docteur sent que cet enfant ne peut pas se nourrir lui-même et s'occuper, prendre soin de lui, quoi. Donc il cherche à l'éduquer comme un homme et à lui permettre de pouvoir au moins s'occuper de lui-même, quoi. Voyant que le garçon réagit à la prononciation de la lettre O, le docteur Itard lui donne le prénom de Victor.
D'accord.
Voilà, okay. Victor. Or. Tu vois, vraiment, la lettre O, il prend plein de prénoms avec, les lettres O.
Il aurait pu l'appeler Oscar.
Oui, c'est ça. Oui, Victor, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, d'où le prénom Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Personne ne croit à sa réinsertion sociale, sauf le docteur Itard. Pendant 5 années, il travaille à l'éduquer pour essayer d'en faire donc un homme. Il connaît de vrais progrès avec Victor. Il arrive même à lui faire prononcer le mot « lait », du lait pour boire, parce qu'il adore le lait, mais prononcer vraiment, tu sais, à la façon qu'on les sourds et muets, tu sais, de parler. C'est une prononciation vraiment, vraiment bizarre. C'est le seul mot que Victor arrivera... pas à dire vraiment, mais à peu près à prononcer, quoi. Il lui apprend quand même pas mal de choses. Il sait aller chercher un couteau quand on lui montre le dessin d'un couteau ou un autre objet quand on lui montre le dessin de l'objet correspondant. Mais ça, c'est vraiment à force de faire un très long exercice, tu vois. Donc, on lui apprend quelque chose, mais Victor, en fait, ne peut pas vivre seul. Il ne peut vraiment pas s'occuper de lui-même. Il est confié aux bons soins d'une gouvernante, Madame Guérin, contre une pension annuelle de 150 francs par an. Elle s'occupe de lui durant 17 ans jusqu'à la mort de Victor en 1828.
D'accord.
À l'âge, alors c'est approximatif, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, à l'âge de 32 ans.
Ouais, il meurt de quoi ?
On ne sait pas.
Ah bon, d'accord.
Non, ça c'est ça. Il n'y a pas eu d'autopsie. Personne ne sait vraiment de quoi il est mort.
D'accord.
Bon. Donc c'est, tu vois, c'est là aussi c'est curieux.
Et on sait un petit peu comment il a vécu ces années d'adulte avec...
De manière un peu particulière, un peu vraiment coupé de l'extérieur. Vraiment coupé de l'extérieur. En fait, plus tard, parce que bon, c'était pas reconnu à cette époque-là, mais de plus en plus, les docteurs, les spécialistes qui s'intéressent un peu à son cas, pensent que, à juste titre, qu'il était, en fait, c'était un enfant autiste.
Ouais.
Tout simplement. Oui. Et l'autisme, on sait que, suivant le degré d'autisme, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais il y en a certains qui arrivent à faire plein de choses, même des génies, et qui arrivent à s'ouvrir un petit peu à l'extérieur, mais il y en a qui sont complètement fermés sur eux-mêmes et qui sont dans une bulle et qui n'arrivent pas à sortir de cette bulle. Apparemment, Victor, c'était vraiment ça. Quoi.
Mais alors, ça ne résout quand même pas le mystère de cet enfant plus ou moins sauvage qui a été vu plusieurs fois avant d'être capturé entre le tas Tarn et l'Aveyron, et qui, d'une façon ou d'une autre, pendant ces 2-3 années où il s'échappe, on le reprend, il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il vive quelque part, et il n'est pas mort.
Non, bah, il a réussi à se nourrir. Ouais, on trouve quand même, des choses.
Hein. Bah, au mois de juillet, mois d'août, je veux bien. Au mois de janvier.
Il devait chasser, il devait. À 9 ans. Se nourrir de racines, d'herbes.
D'accord.
Tu sais, quand t'as faim, soit tu meurs, soit t'arrives à te débrouiller.
Ouais, mais souvent tu meurs.
Dans les bois, ça devait pas manquer ni de petits gibiers, ni de. Mmh. Mais souvent, comme tu dis, souvent tu meurs. Mmh. Ce qui explique que l'hypothèse des médecins, tu vois, qui remettent en cause le fait que il a pas été si sauvage que ça.
Ouais, voilà.
Ou en tout cas, pas pendant très longtemps.
Mmh. Ouais. Moi, je penserais plutôt ça, moi.
Ouais. Mais c'est vraiment, tu vois, ce qui a été retenu par les médecins, surtout par le naturaliste en question. Voilà. Alors, sans nom, sans famille, le pauvre Victor a été enterré dans une fosse commune.
Oui.
Voilà,
tout où ça fait. À Paris.
À Paris. Où, je ne sais pas préciser.
Ah bah, fosse commune.
On ne sait pas de quoi il est mort, on ne sait pas où il est enterré.
Il avait été complètement oublié, quoi, après son.
C'est ça.
Après le moment de la découverte.
Ben c'est ça. Ouais. C'est la découverte, ça a été le moment phare vraiment de entre guillemets de sa vie, et puis aussi les débuts des recherches,
ouais, des recherches
qui ont été faites, et puis tout le travail qui a été fait pendant 4 ou 5 ans là par le docteur Itard. Donc là il y avait un suivi, mais bon, après voilà, il a été un peu oublié, oublié à cette époque-là, parce que après, c'est ce qu'on va voir maintenant. On en a beaucoup depuis 1800, on en a beaucoup parlé. J'aime bien finir un petit peu par les hommages, par tout ce qui a été fait sur la personne ou le lieu, et là effectivement il y a beaucoup depuis 1800, beaucoup de livres, beaucoup d'articles qui ont été faits sur lui, parce que ça reste une énigme.
Ouais.
Donc les énigmes passionnent.
Bah oui, on cherche toujours les clés.
Tout à fait. Et il est aussi très connu, surtout des contemporains, enfin de nous, de nos contemporains à nous, parce que en 1970, t'en parlais tout à l'heure, François Truffaut réalise le célèbre film L'Enfant sauvage.
Ah, c'était en 70, j'ai dû le voir.
70.
Moi, j'étais pas né, donc j'ai dû le voir à la télé après, moi. Mais j'étais tout petit, je m'en souviens encore de ce film, ça m'avait marqué.
Ah, super. Écoute, moi, je suis allé le chercher à la médiathèque pour un DVD pour justement me le refaire, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu.
Ouais.
C'est vraiment un très, très, très beau film.
François Truffaut, quand même.
Mais. Il transforme un peu la réalité.
Bah oui, c'est du cinéma.
C'est du cinéma. Vincent,
oui.
Voilà, tout à fait.
Oui.
Alors, Truffaut, c'est génial, parce que Truffaut joue. On l'oublie, mais joue dans le film.
Bah oui, celui qui l'enseigne.
C'est lui le docteur Itard.
Ouais,
c'est
oui.
lui qui le prend chez lui, qui s'en occupe, qui l'enseigne, qui l'éduque. Puis je trouve qu'il a une voix, Truffaut, il a une voix extraordinaire.
Oui,
vraiment,
tu sais,
presque tu pourrais l'écouter pour t'endormir si t'y arrives pas.
Ouais.
Alors oui, je disais, voilà, la réalité, comme tu dis, le cinéma, des fois, pour faire des bons films, on change un peu. Et en fait, il travestit un peu la réalité. Je disais que Victor avait peur des hauteurs, ne montait pas aux arbres. Dans le film, il monte aux arbres pour se réfugier quand justement les chiens et les chasseurs essayent de le capturer. J'ai dit qu'il avait peur de l'eau. Sans arrêt, il joue avec l'eau dans ce film.
Ouais.
Dès qu'il y a une rivière, il va éclabousser, il s'en met partout. La nuit, quand il pleut, il sort dans la cour de la maison du docteur Itard et il va jouer sous la pluie qui le mouille.
Et oui, parce que c'est le côté nature sauvage.
C'est ça.
Truffaut, lui, était
dans
cette optique-là. Donc tous les éléments naturels devaient aller avec cet enfant, même si la réalité, c'était le contraire.
Pour Truffaut, c'était un vrai enfant sauvage depuis des années. Ça fait un très bon film, chers auditeurs, regardez-le en étant quand même un peu vigilant, mais que ça vous empêche pas de le regarder. Moi, je me suis régalé.
Plus,
c'est des films, tu sais, ça dure 1h20, donc c'est pas les films où t'en as pour 4 heures. donc, c'est vraiment un très beau film, moi, je vous le conseille. En 2008, plus près de nous, alors ça me dit rien, je crois que je l'ai pas vu, il faudra que j'essaye de le chercher, Catherine Ayron réalise un docu-fiction pour la télé qui s'intitule Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron.
Ah bah je l'ai pas vu non plus.
Voilà, docu-fiction.
D'accord.
Donc, ouais, moi ça me dit rien. Et alors, dernier hommage à cet enfant sauvage de l'Aveyron, à Saint-Cernin-sur-Rance, sur la place du Fort, Vous pouvez admirer une statue en basalte représentant l'enfant sauvage accroupi, le visage caché par une longue chevelure en bataille qui ressemble un peu, c'est marrant, qui ressemble un peu à une crinière de lion,
ouais.
Tu vois, pour l'ensauvager un peu plus.
Ouais.
Et il est un peu comme le penseur de Rodin. Il a le coude appuyé par terre et il s'appuie sur son poing. C'est assez rigolo. Et cette sculpture est l'œuvre du sculpteur Rémi Coudrin.
D'accord, qu'on salue.
Qu'on salue. Alors, si vous allez à Saint-Sernin aussi, n'hésitez pas à aller pousser la porte de la maison des Monts et Vallons du Rance. Mmh. Vous y trouverez plein d'informations historiques sur cette extraordinaire aventure.
Eh oui, Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. C'était le sujet du 35e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez. On se retrouve dans 15 jours, Vincent.
Oui, avec plaisir.
Avec quel sujet, quelle thématique?
Je n'ai pas encore choisi, ça sera la surprise parce que voilà, je suis sur plusieurs pistes. On verra.
Eh ben, j'adore les surprises.
Moi aussi.
Merci beaucoup, Vincent.
Merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.